Le nouveau mois de Marie, 13e jour. Visitation de la Très Sainte Vierge. Quelles sont ravissantes, mon cher Théotime, les démarches de la fille du Très-Haut. Marie apprend par la bouche de l'ange que le Seigneur a fécondé le sein, si longtemps stérile d'Élisabeth. Aussitôt, l'humble Vierge ne considère ni sa dignité nouvelle, ni les fatigues d'un voyage pénible. Elle vole à travers les montagnes, elle se hâte d'aller offrir à sa cousine les secours et les consolations de la charité. Comment décrire l'entrevue de ces deux mères privilégiées, qui devaient donner le jour, l'une au Sauveur du monde, l'autre au plus grand des enfants des hommes? La voix de la Bienheureuse Vierge s'est à peine fait entendre qu'Élisabeth s'écrie avec un saint transport. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Au son de votre voix, j'ai senti l'enfant que je porte en mon sein tressaillir d'allégresse. Marie lui répond par ce cantique admirable, que saint Ambroise appelle l'extase de son humilité. Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon salut. Quel entretien, quel sentiment, mon cher Théotime! Sainte maison de Zacharie, de quel prodige n'êtes-vous pas témoin? Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint, Jean-Baptiste est sanctifié avant d'avoir vu la lumière, et la langue de Zacharie est déliée pour bénir le Dieu d'Israël. Qui jamais entendit rien de semblable et que de prodiges rassemblés dans ce mystère? Communion indigne. Méditation. Où trouver, mon cher Théotime, des pensées assez fortes, des expressions assez énergiques pour parler de la communion indigne, pour peindre le crime du sacrilège réfléchi et consommé de sang-froid? 1. C'est un outrage infini à la sagesse de Jésus-Christ. L'Eucharistie, dit saint Augustin, est le terme de la sagesse de Dieu. Par l'Eucharistie, Jésus-Christ avait trouvé le secret de satisfaire tout à la fois à son amour et à ses promesses, à la justice et à la gloire de son Père. Or, une communion indigne renverse cet ordre, anéantit ces inventions adorables de l'amour divin. Une communion indigne. Elle change le gage de la miséricorde de Dieu en un signe de colère. Elle fait du breuvage du salut un breuvage de perdition et de mort. Une communion indigne. Dès lors, ce sang, dont la voix montait jusqu'au ciel pour demander grâce, crie avec plus de force que celui d'Abel, justice et vengeance. Cet holocauste qui désarmait le bras du Très-Haut ne fait plus qu'irriter son courroux, qu'allumer toutes ses foudres et appeler ses anathèmes. Représentez-vous, Théotime, le démon régnant en souverain dans l'âme de ce pécheur sacrilège. C'est à ce tyran cruel, c'est sur l'autel de ce cœur immonde, que va s'offrir un sacrifice d'abomination. Le prêtre de Jésus-Christ a parlé. Le ciel s'ouvre, les anges accourent en foule autour du sanctuaire, et le Fils de Dieu est descendu au milieu des hommes. Esprit heureux, versez des larmes amères. Église de Jésus-Christ, cessez vos cantiques d'allégresse, voilà le profanateur qui s'avance, trompé par la perfide apparence des respects hypocrites, le ministre sacré lui a livré l'agneau de Dieu. L'impie ne le reçoit que pour le mettre aux pieds de Satan. Tiens, voilà mon Dieu, ce Dieu qui t'a vaincu et que tu abhorres. Je te l'abandonne, je te l'immole. Et ainsi le roi de gloire devient, pour ainsi dire, la victime de Satan. Et le sang de l'Alliance qui efface les péchés du monde scelle le pacte affreux par lequel le profanateur se lie au démon et se dévoue à l'enfer. 2. La communion sacrilège est un outrage infini à l'honneur et à la gloire de Jésus-Christ. L'apôtre nous déclare que les ignominies du Fils de Dieu sont terminées, que les jours de son humiliation et de ses souffrances ont fait place aux jours de sa gloire et de son impassibilité. Il vous est donné, pécheur sacrilège, de démentir en quelque sorte ces oracles, de renouveler les opprobres de votre Dieu, que que dis-je, de le condamner à des opprobres nouveaux, plus cruels encore que les premiers. Rappelez-vous, Théotime, l'impiété de cet empereur païen qui fit placer sur le calvaire l'idole d'une déesse impudique et une statue de Jupiter sur le tombeau même de Jésus-Christ. Quel attentat ! J'en connais un plus horrible encore, une communion indigne. Rappelez-vous les sacrilèges dont notre abominable révolution a épouvanté le monde. Les temples du Seigneur convertis en d'infâmes théâtres, les tabernacles brisés, les vases du sanctuaire profanés par la débauche, l'impudicité assise en triomphe sur l'autel, et un peuple entier, honteusement profané, devant une ville prostituée. Quels attentats ! J'en connais un plus horrible encore, la communion indigne. Rappelez-vous, enfin, ce que l'on raconte de la cruauté infernale de ce juif qui s'était procuré une hostie consacrée. Il la perce à coups de canif, le sang qui ruisselle ranime sa fureur. Il la perce encore, le sang coule de nouveau. Il la livre aux flammes, qui la respectent et la conservent intacte. Il la perce d'un glaive et il la jette enfin dans une chaudière bouillante dont les eaux se rougissent du sang divin. Vous frémissez, Théotime ? Ah, j'ose dire qu'il est un attentat plus horrible encore, la communion indigne. Ici, ce n'est plus seulement parmi les simulacres insensibles, c'est parmi les idoles vivantes des plus infâmes passions que le profanateur place l'agneau sans tache. Il associe les membres du Dieu trois fois saint à des membres prostitués aux habitudes les plus honteuses. Ses lèvres souillées touchent celui qui est la pureté même, et une langue qui a porté l'esprit des ténèbres, selon l'expression de saint Augustin, porte le Fils de Dieu. Un tyran de l'Antiquité faisait attacher les hommes pleins de vie et de santé à des cadavres en putréfaction. Et vous, pécheurs, vous attachez, vous clouez le corps virginal de Jésus à un cadavre plein de la corruption, du vice et marqué du sceau de Satan. Et vous, vous unissez, vous incorporez, vous identifiez en quelque sorte Jésus avec l'iniquité. Une chair d'infamie devient sa chair. Son sang se mêle à un sang impur, circule dans un corps de péché. Ô ignominie de mon Dieu, ô triomphe de l'enfer, ô crime du sacrilège profanateur. 3. C'est un outrage infini à la charité de Jésus-Christ. Un Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Un Dieu s'est dépouillé de sa gloire, s'est incarné pour notre salut dans le sein d'une vierge et a expié sur une croix. Ce n'est pas assez, un Dieu habitant au milieu de nous, vivant pour nous, devient notre nourriture dans l'Eucharistie. Voilà le dernier effort de l'amour. In finem, delexit. Jean, chapitre 13, verset 1. L'institution de l'Eucharistie est le terme de la charité de Dieu. Oui, mon cher Théotime, mais aussi la profanation de l'Eucharistie est le terme de la malice de l'homme. Écoutez l'apôtre saint Paul, celui qui communie indignement, est coupable du corps et du sang du Seigneur. L'homicide répond de la vie de son semblable, le scandaleux répond de son âme, mais celui qui porte un péché mortel à la table sainte répond du corps et du sang de Jésus-Christ. Dans tout péché mortel, je le sais, Dieu est offensé infiniment. Mais il n'est offensé, pour ainsi dire, que par contre-coup. C'est un trait impuissant qui expire au pied du trône de cette inaccessible majesté. Dans la communion indigne, Dieu est directement, personnellement attaqué. Le profanateur le poursuit réellement dans son corps, dans son âme, dans sa divinité. Il se fait à la lettre. L'homicide de Jésus-Christ, dit saint Chrysostome, Christicida. Ainsi, mon cher Théotime, vous dirais-je qu'une communion indigne est un acte de l'ingratitude la plus noire ? Quoi ? Vous, enfant de l'Église, héritier du ciel, frère, membre de Jésus-Christ, l'outrager dans le sacrement de son amour, à l'instant même où il se donne à vous, le poursuivre jusque sous les voiles mystiques sous lesquels il ne se cachait que pour s'unir plus intimement à vous. Aussi vous dirais-je que c'est un acte de malice inouïe. Ici, point de ces passions furieuses qui troublent et aveuglent. De sang-froid, avec calme et réflexion, le sacrilège conçoit, combine et exécute son crime. Le démon règne dans son âme, il le sait. C'est un dieu qu'il va recevoir. Il s'agit peut-être d'un anathème éternel. Il le sait encore et il consomme le crime. Mon cher Théotime, tout est renfermé dans ce seul mot. La communion, indigne, est un déicide. 4. Enfin, c'est un crime que le Seigneur punit par le plus terrible châtiment. Celui qui reçoit indignement le corps et le sang de Jésus-Christ boit et mange sa propre condamnation, c'est-à-dire que le profanateur de l'Eucharistie est un pécheur à part, puisque le Seigneur établit une épouvantable différence entre lui et les autres pécheurs. Dès cette vie, dès le moment même qu'il a commis le forfait, le procès est instruit, la sentence prononcée, l'arrêt presque exécuté. Le procès est instruit. Les autres pécheurs sont cités à la mort devant le tribunal du souverain juge. Le livre fatal où sont écrites les œuvres de l'homme sera produit. Les anges seront pris à témoin. Satan lui-même accusera le coupable. Mais ici, toute procédure est inutile. L'indigne communion porte en lui-même l'accusateur, le témoin, le juge et la conviction de son crime. Judicium, sibi, menducat et bibit. Corinthiens chapitre 11, verset 29. La sentence est prononcée. Dans l'Antiquité, on contraignait les criminels d'avaler leur arrêt de mort pour leur apprendre qu'il était irrévocable. Or, il se passe quelque chose de semblable dans la condamnation du sacrilège. Elle est, en quelque sorte, écrite dans son corps avec le sang de Jésus-Christ. Oh, pensée terrible, le coupable ne fait plus qu'un avec la sentence. Elle lui est incorporée, elle coule dans ses veines. Elle est, pour ainsi dire, unie avec toutes les parties de son être. Judicium, sibi, manducat et bibit. Enfin, l'arrêt ne semble-t-il pas exécuté? Quelque chose de l'anathème qui a frappé la déicide Jérusalem pèse sur la tête du sacrilège. Même abandon du Seigneur. Les anges, en s'éloignant, se sont écriés « Sortons d'ici! Sortons d'ici! Exeamus !» Même aveuglement. Au milieu des plus vives clartés, il apporte un bandeau sur les yeux. Il ne voit plus rien, ni l'énormité de son attentat, ni l'enfer ouvert sous ses pieds, et prêt à l'engloutir. Même en durcissement, quelle voie de salut lui reste-t-il encore? Le sacrement de pénitence? Hélas, il n'ose avouer son crime. D'ailleurs, les profanations lui sont devenues familières, et un abîme invoque un autre abîme. Les remords? Jusque-là, la conscience réclamait. Elle lui réclamait avant le crime.
Malheureux, que vas-tu faire?
Et après le crime?
Malheureux, qu'as-tu fait?
Mais une communion indigne en amène d'autres plus indignes. Peu à peu, les remords sont étouffés et le sang de Jésus-Christ profané. C'est changé en un calice d'assoupissement qui endort le pécheur dans son impiété. C'en est donc fait, sa réprobation est consommée. Je me trompe, elle ne l'est pas encore. Oui, Théotime, il y a un moyen de réparer la communion sacrilège. C'est une communion bien faite. Oh, vous qui avez eu le malheur de placer votre Dieu dans le temple du démon, ne désespérez point, je vous en conjure. Allez à Marie, avec un cœur plein de repentir et de confiance. Elle vous obtiendra un don de force pour confesser votre péché, un don de larmes pour le pleurer, et le même sang qui vous avait réprouvé va vous absoudre et vous justifier. Exemple. Lothaire, roi de Lorraine, se dégoûta de Tietberg, son épouse. Une jeune personne, nommée Valdrad, avait pris la place de la reine dans le cœur de ce prince infortuné. L'affaire avait été déférée au pape Nicolas. Lothaire fut excommunié et condamné à quitter Valdrad. Sur ces entrefaites, le souverain pontife mourut et eut pour successeur Adrien. Le roi, espérant trouver le nouveau pape plus facile que son prédécesseur, lui fit 1000 protestations trompeuses et demanda la permission d'aller à Rome pour recevoir l'absolution des censures qu'il avait encourues. Il souhaitait, de plus, que le souverain pontife se réconciliât solennellement en célébrant les saints mystères en sa présence et en lui donnant la communion de sa main. Adrien, après avoir pris les mesures qu'exigeait la prudence, se rendit à ses désirs. Mais au moment de la communion, prenant la Sainte Eucharistie et se tournant vers le roi, « Prince, lui dit-il, d'une voix haute et distincte, si vous avez fait une ferme résolution de n'avoir plus de commerce avec Valdrad, approchez avec confiance et recevez le sacrement de la vie éternelle. Mais si votre pénitence n'est pas sincère, n'ayez pas la témérité de recevoir le corps et le sang de votre Seigneur et de vous incorporer en le profanant votre propre condamnation. » Lothaire frémit sans doute de ces mots, mais l'excès du crime était résolu. Il le consomma. Il ajouta le parjure au sacrilège, et plutôt que de reculer, il se précipita dans l'abîme qu'on lui montrait ouvert à ses pieds. Le pape, s'adressant ensuite aux grands qui allaient communier avec le roi, dit à chacun d'eux, « Si vous n'avez ni contribué ni consenti au crime de votre maître, que le corps du Christ vous soit un gage de salut éternel. » L'horreur du sacrilège en fit retirer quelques-uns, mais la plupart communièrent à l'exemple du roi. Le châtiment suivit de près le crime. À peine arrivé à Lucques, Lothaire et les seigneurs qui l'accompagnaient furent attaqués d'une fièvre maligne qui produisit les effets les plus étranges et les plus effrayants. Les cheveux, les ongles,
la peau même,
leur tombaient, tandis qu'un feu intérieur les dévorait. La plupart moururent sous les yeux du roi. Il ne laissa pas de continuer sa route, uniquement occupé de l'objet de son aveugle passion. Arrivé à Plaisance, il perdit la connaissance et la parole et mourut sans donner aucun signe de repentir. On observa que ceux de sa suite, qui avaient profané avec lui le corps de notre Seigneur, périrent de la même manière. Ceux qui s'étaient retirés de la table sainte furent les seuls que la mort épargna, en sorte qu'on ne put méconnaître la juste vengeance du ciel. Histoire de l'Église par Béraud Bercastel. Pratique. Avant de communier, éprouvez-vous selon le conseil de l'apôtre. Si vous avez eu le malheur de profaner le corps de Jésus-Christ, ne désespérez pas de vous-même, mais demandez à Marie le courage de sortir de ce funeste état par une confession sincère.
Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.